With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission où on vous résume toute l'actu des jeux vidéo, que ce soit console, PC, industrie. On parle de tout et on, en plus de résumer et d'en parler, on essaye d'analyser un tout petit peu et de vous fournir les clés pour tout comprendre et en tout cas, à défaut, passer un très bon moment tous ensemble. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode 175, nous sommes en février 2021 et je voudrais évidemment remercier les auditeurs qui permettent à l'émission d'exister, les patriotes qui la soutiennent financièrement sur Patreon, ils sont bien nommés, notamment Fabien Becklin, Austrasier, Dave from BNF, je me demande si c'est la Banque de France BNF, Olou, L'Orange, Tom et les producteurs Lancelot Davizard, Chulrac et Johan Journet. Le nom se prononce Journée. Merci à vous tous et en particulier aux producteurs, à tous ceux qui permettent à cette émission de se faire. Et d'autant plus aujourd'hui, alors je suis toujours content le jeudi midi quand on arrive sur Twitch et que c'est le moment de faire l'émission, je suis toujours content évidemment, mais généralement j'ai des gens qui sont assez cool. Aujourd'hui, j'ai deux invités exceptionnels qui emplissent mon cœur d'une joie indicible par leur présence. mais c'est vrai en plus ce que je dis. Vous avez l'impression que j'exagère, mais c'est tout à fait vrai. Parce que d'une part, on a Trinity, j'ai failli dire Priscilla Trinity, mais on a Trinity.
Tu peux dire les deux, comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème.
Qui a déjà participé à l'émission à plusieurs reprises, mais qui là me fait l'immense honneur et l'immense joie de faire sa première participation en tant que régulière, puisque tu vas nous rejoindre tous les mois dans le rendez-vous jeu pour commenter avec moi. Donc je suis super contente.
Et je suis très contente que tu m'aies proposé. Sincèrement, c'est un réel plaisir de participer à l'émission. Donc, quand tu m'as envoyé un petit message pour savoir si je voulais être là tous les mois, mais c'est un grand oui direct. Donc, vraiment un plaisir de vous retrouver et maintenant de vous retrouver tous les mois.
Tu sais, c'est marrant parce que ces émissions, ces podcasts, ça me donne l'occasion de parler à des gens que j'admire et je me dis, moi, je suis tout en bas de l'échelle et je vois les stars en haut et je me dis, oh, mais ces gens-là sont tellement cool, tellement sympas, comme mon pote Dany, par exemple, qui est là tous les mois, ou J.K., journaliste de renom, qui me fait le plaisir également de venir tous les mois dans l'émission. Et donc, je suis hyper heureux. Je me suis dit, mais Trinity, est-ce qu'elle va accepter ?
Non, c'est gentil. Et puis, tu n'es pas tout en bas. Sache que beaucoup de gens me parlent de ton émission. Ah. Beaucoup de gens de ma chaîne viennent me dire qu'ils connaissent ton émission.
Donc, c'est très gentil. Bon, donc ça, c'est la première chose. Mais l'autre personne qui est présente pour l'émission aujourd'hui, c'est Audrey Leprince, fondatrice de The Game Bakers, qui a notamment développé, alors, il y a Fury, bien sûr, il y a quelques temps, mais également Raven, que les auditeurs et auditrices de l'émission connaissent parfaitement bien, en tout cas, j'espère, sinon je vais vous gronder, puisque je vous en parle quand même depuis son arrivée sur le Game Pass en novembre. The Game Bakers, et tu as une histoire dans l'industrie, Audrey, depuis un bon moment, et je suis très heureux de te recevoir dans l'émission, du coup.
Et moi aussi, je suis ravie, et c'est d'ailleurs le premier podcast que j'ai accepté de faire depuis le lancement de Heaven, parce que ça me faisait plaisir de participer.
Écoute, je vais prendre ça pour moi. Je vais être extrêmement présomptueux sur ce coup. Je me dis, franchement, le rendez-vous jeu est du coup d'une qualité suffisante pour que Audrey accepte d'y participer. Je suis très flatté. Bon, merci en tout cas, Audrey, d'être là. Je suis sûr qu'on va parler de Haven justement un petit peu plus loin dans l'émission parce que moi j'ai plein de questions à poser. Mais la grosse news de la semaine, c'est quand même la BlizzCon, ou plutôt, je devrais dire la BlizzCon Line, parce que c'est pas du tout la même chose qu'une BlizzCon. Et je dis ça en plaisantant un petit peu, mais il y a vraiment une différence extrêmement, pas juste notable, mais sensible. C'est-à-dire que La BlizzCon, c'est l'événement de Blizzard annuel qui a lieu généralement en novembre, tout début novembre, qui est à la fois l'occasion de faire une grosse fête marketing PR pour la société et en même temps, de manière vraiment réelle, de réunir la communauté et de donner l'occasion aux membres de la communauté de se retrouver, de passer deux jours ensemble, assez fous et hyper joyeux dans le partage de la geekerie qu'ils et qu'elles ont tous. C'est vraiment un truc qui est une composante essentielle de la BlizzCon généralement. Alors bien sûr, cette année, l'année dernière, en 2020, elle n'a pas eu lieu et elle a été remplacée par la BlizzCon Line, entièrement online, qui a eu lieu il y a une petite semaine environ, quelques jours. Et évidemment, ce n'était pas la même chose déjà à ce niveau. Et en plus de ça, il faut avouer que on n'avait pas non plus d'annonce assez notable pour, je dirais, dans l'esprit de la plupart des gens, justifier une vraie BlizzCon. Bon, ça tombe bien parce que ce n'était pas une vraie BlizzCon, mais on attendait <C'est> peut-être... Ils ont bien fait leur calcul, en fait.
Voilà.
Mais on attendait différentes choses. Alors, peut-être pas une date pour Diablo 4, mais peut-être une date pour Overwatch 2. Et non seulement on n'a pas eu de date pour Overwatch 2, mais on n'a même pas eu de présence d'Overwatch 2 dans la cérémonie d'ouverture. Quasiment rien pour Diablo 4 non plus. Un nouveau personnage, le Rogue, qui était quand même assez cool à voir évoluer, mais ce n'était pas non plus une annonce extrêmement importante. Et puis, des petits trucs attendus. Enfin, des petits trucs. Certains sont fous de joie à l'annonce de Diablo 2 Resurrected, un remake remaster. À vrai dire, c'est même un remake puisqu'il est en 3D à 60 FPS, etc. De Diablo 2, il y a des annonces pour d'un nouveau mode notamment pour Hearthstone qui a l'air assez cool. C'est un mode un petit peu roguelite à progression comparable à Slay the Spire presque. Il y a aussi l'annonce de Burning Crusade classique et puis un patch pour World of Warcraft Shadowlands. Mais Burning Crusade classique qui est intéressant parce que ils vont continuer à avoir d'un côté Warcraft classique et puis d'un autre Burning Crusade classique et puis WoW retail normal avec Shadowlands, peut-être pourquoi pas un jour World of Warcraft Wrath of the Lich King classique. Enfin, ils ont plusieurs versions du jeu, toujours sous la même ombrelle de l'abonnement unique à World of Warcraft qui devient un jeu à multiples services. Et à part ça, c'était à peu près tout. Alors, il y a eu des petits détails dans les panels qui ont suivi, mais je crois que dans l'ensemble, on était dans une configuration qui était un petit peu similaire à celle du Nintendo Direct de la semaine précédente. C'est-à-dire que il n'y avait pas une grosse annonce pour mettre tout le monde d'accord et satisfaire tout le monde. Donc, dans l'ensemble, les gens étaient plutôt déçus, je crois. D'après mes sondages sur YouTube et Twitter, les gens étaient moins déçus pour la BlizzCon que pour le Nintendo Direct. Mais il y avait quand même une tendance à la déception qui était claire. Et à côté de ça, les communautés des jeux existants, comme Diablo 2, Diablo en général, Overwatch, Hearthstone, si les nouveautés ne parlent pas forcément à l'ensemble du public, ils parlent un petit peu à ces communautés spécifiquement qui ont eu des choses à se mettre sous la dent. Donc, c'est mon analyse de la BlizzCon. Je ne sais pas si tu es une fan de Blizzard Trinity ou tu attends
Alors,
Diablo?
Pas du tout. Justement, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui est hyper intéressé à la base par les jeux Blizzard. Alors, non pas que je veux pas, mais c'est juste que je n'y joue pas spécialement. J'ai testé un petit peu Overwatch. WoW, j'ai jamais été une très grosse fan. Moi, je suis plus sur FF14 à l'heure actuelle. Je découvre un petit peu le monde des MMO. Mais effectivement, j'ai quand même regardé un petit peu un résumé de cette BlizzCon et regardé un petit peu les avis. Et ce qui en est ressorti, c'est vraiment que effectivement, ils sont restés un petit peu sur les jeux qu'ils avaient déjà, pas d'énormes annonces. Overwatch, moi, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient qu'ils avaient l'impression que c'était un peu un Overwatch 1, mais 2.0, qu'il n'y avait pas de nouveautés énormes non plus, en tout cas de ce qui a été vu. Donc, un petit peu mitigé, en tout cas, au vu de ce qui est ressorti sur les réseaux. Et effectivement, pas d'énormes annonces qui fait qu'on va tous être fédérés autour de ça. Et puis moi, je remarque effectivement que ils sont très concentrés sur leur licence actuelle. Moi, j'aime bien, tu vois, quand on a une nouvelle licence qui arrive, quand on nous tease un truc qui va sortir un petit peu de ce qu'on a déjà. Et là, on reste énormément focus sur ce qui est déjà présent, quoi.
C'est marrant parce que c'est effectivement, c'est évidemment une... Pardon Audrey, je t'interromps, tu voulais dire quelque chose ?
Non, mais j'allais réagir sur ce que disait Trinity, mais je peux attendre si tu préfères.
Non, non, mais bien sûr, je préfère largement t'écouter que de parler moi-même.
Mais non, mais Trinity, tu disais, ils sont énormément concentrés sur leur licence, et c'est vrai que moi, je pense que c'est, d'un point de vue business, c'est tout le challenge de ces énormes sociétés, et Blizzard en particulier, qui est connu pour leur philosophie de sortir les jeux when it's done, donc quand c'est prêt. C'est prêt quand c'est prêt, qui a inspiré d'ailleurs énormément d'acteurs de l'industrie, énormément d'indés. Et donc, ils sont confrontés à ce challenge de ne pouvoir sortir que des choses qui sont parfaitement construites pour l'expérience utilisateur, parfaitement designées, qui sont impeccables. Donc, c'est énorme. Ils ont une pression sur leurs épaules à chacun de leurs jeux, à chacun de leurs pas, qui forcément fait que c'est forcément difficile de faire des grosses annonces tout le temps. Et puis je crois aussi qu'il y a quand même aussi eu un changement au sein des équipes de Blizzard. Donc ça, peut-être Patrick, toi qui es un expert de Blizzard, peut-être tu en sais plus que moi, mais moi je sais au niveau de l'industrie qu'on a vu qu'il y avait pas mal aussi de leurs équipes créatives et de leur top exécutif, comme on dit, qui étaient partis un petit peu lors des 4 dernières années. Donc peut-être qu'il y a aussi un challenge pour eux. Une organisation, parce que globalement, suite au rachat d'Activision, cette espèce de réorientation vers encore plus profonde, hein, vers le jeu comme un service, vers le mobile, qui sont des choses qui étaient un peu nouvelles aussi pour les fans.
C'est complètement le cas. Alors, le rachat d'Activision, très précisément, a eu lieu il y a un bon moment, mais les grands changements dont tu parles, c'est vrai, depuis 4 ans, on va dire, 3-4 ans, il y a des changements massifs au sein de la boîte, et tu parles avec raison de la politique ou du précepte de « when it's done ». Ils ont fait un gros faux pas en début d'année avec Warcraft 3 Reforged, qui, j'espère, les a marqués, dont ils ont retenu la leçon. Et pour Diablo 2, ils géreront les choses autrement. Et à côté de ça, ils ont adresser la chose, c'est un anglicisme, vous m'en excuserez, mais ils ont dit dans la conférence, Jay Allen Brack, le président actuel, a dit « Bon, c'est vrai qu'on parle que des trucs qui existent déjà, on regarde en arrière, bon, c'est les 30 ans de Blizzard aussi, on a fait Blizzard Arcade avec les trois vieux jeux Lost Vikings, Rock'n'Roll Racing et... comment il s'appelle le dernier, le nom m'échappe, mais le dernier aussi qui est ramené au goût du jour, enfin qui ont été rendus disponibles sur toutes les plateformes, donc ils regardaient vraiment en arrière. Mais on a encore plein de trucs sur lesquels on travaille, des trucs nouveaux, des trucs différents. Et donc, je vous demande de nous donner votre patience parce qu'on est en train de bosser dessus, mais on n'est pas encore prêt à les annoncer. Et d'ailleurs, même Overwatch 2, moi j'y avais joué à la BlizzCon en 2018, et il était effectivement un mode PVE pour Overwatch 1 qui était un truc PVP. Moi, j'ai l'impression qu'ils se sont rendus compte de l'ampleur de la tâche de créer un vrai mode PVE rejouable jeu-service. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles ils ont dit il ne sortira pas en 2021, toujours pas, et on n'a même pas de date, c'est qu'ils ont revu l'ambition du jeu pour peut-être proposer quelque chose qui s'approche un peu plus d'une vraie mise à jour d'un jeu coop à la Left 4 Dead. Là où, jusqu'à maintenant, Left 4 Dead est resté le template, mais eux, ils veulent proposer un vrai truc service un peu plus cool, un peu plus travaillé. Et c'est une ambition, c'était un jeu qui était beaucoup plus ambitieux que ce qu'ils pensaient à l'origine. Oui, c'est 2019 pour Overwatch 2, pardon, pas 2018. Mais du coup, ils sont dans une situation hyper compliquée, je crois, parce qu'ils ont bien sûr assez clairement une pression qui leur est amenée du dessus d'Activision pour sortir des choses, mais comme on en parle depuis quelques mois, ils n'ont pas sorti de vrais nouveaux jeux, il n'y avait que des extensions et des contenus in-game, ils n'en ont pas sorti depuis 2016. Et évidemment que c'est frustrant pour les joueurs de voir que les jeux ne sortent pas et que ça fait 5 ans et ça fera 6 ans, rendez-vous compte, 6 ans sans sortir de nouveaux jeux. Mais en même temps, est-ce qu'on ne peut pas on n'a pas le devoir de se dire c'est peut-être mieux de ne pas sortir le jeu tant qu'il n'est pas fait. Là, peut-être que je me retourne vers la développeuse ou vers la vétérante de l'industrie. ça doit pas être facile pour eux, mais en même temps, on peut pas leur reprocher de pas sortir les jeux tant qu'ils sont pas finis, même si ça prend trop longtemps. Ou alors, est-ce qu'à un moment, il faut dire, bah, c'est bon, on va le sortir, quoi. Il faut qu'on sorte quelque chose.
Non, après, je suis assez d'accord avec toi. On l'a vu, il y a eu quand même quelques gros couacs, et on repense notamment, par exemple, à Cyberpunk, ça a créé des problèmes, hein, forcément. Donc non, effectivement, moi, je suis d'accord. Il vaut mieux leur laisser le temps. C'est sûr qu'on a l'envie, en fait, quand je parlais de ça, on a l'envie qu'il y ait une nouveauté. Alors après, moi, comme je vous disais, je suis pas une grosse fan de Blizzard, mais je suis toujours preneuse, tu vois, d'avoir quelque chose de nouveau qui arrive. On a l'envie, mais je pense qu'effectivement, il vaut mieux laisser le temps au studio de faire son travail, de le faire correctement, même si on doit un petit peu patienter.
Ouais.
Et ça prend un temps énorme. Hein. On sous-estime vraiment les temps de production. Mais les AAA d'aujourd'hui, que ce soit ceux de Blizzard, ceux d'Ubisoft, c'est 5, 6, 7 ans pour faire des créations originales. C'est parce qu'on est maintenant de sortir de nouveaux jeux tous les deux ans, c'est fini.
C'est ça, c'est parce qu'on est parti, on a été habitué à ça. Il y a eu un moment quand même où il y a eu un gros boom, où on a eu des jeux qui sortaient tous les ans, tous les deux ans, et je pense qu'on a vraiment habitué les gens à avoir un peu tout le temps ce flot de jeux qui arrivent. Et maintenant, les studios prennent un peu plus le temps quand même de prendre le temps de bien développer et de sortir quelque chose qui est solide, quoi.
Il y a des orientations dans l'industrie, c'est sûr, mais il y a aussi la question que tu évoques, Audrey. Il y a 10, 20 ans, sortir un jeu en 2 ans, c'était possible. Et je crois aussi que dans la génération PS4, Xbox One, les studios ont arrêté de faire des jeux AA qui étaient sortis rapidement en 2 ans et se sont concentrés sur les énormes productions. Bon, Blizzard a toujours été dans une situation particulière, mais tu confirmes, un gros jeu comme ça prend... 7 ans, quoi, 8 ans à développer. Ça, peut-être que j'exagère un petit peu, mais au moins 3-4 ans. Tu peux rien faire en moins de 3-4 ans, quoi.
Surtout si c'est une nouvelle IP complètement. Effectivement, là, ils ont des enjeux créatifs énormes. Et puis, ne serait-ce que produire, même quand on a une équipe aujourd'hui qui fait quoi, 700 ou 1000 personnes, qui est la taille moyenne des équipes de AAA aujourd'hui, même avec autant de gens, ça prend un temps fou de produire tous ces contenus. À la qualité qui évolue aujourd'hui. Et puis je sais pas, moi je joue pas non plus aux jeux bizarres, je sais pas si c'est leur logique de faire beaucoup d'early access. Je sais pas s'il y a beaucoup d'early access chez Blizzard. Alors, non, pas vraiment. Donc en plus, chez Blizzard, c'est un truc parfait.
C'est ça, chez Blizzard, ils font des bêtas parfois, et des bêtas fermées puis ouvertes, mais leurs bêtas, elles sont tellement peaufinées qu'elles sont un niveau de jeu sorti, quoi. Ils sont connus pour ça, et moi j'espérais la bêta Overwatch 2 cette année, et clairement ça va pas arriver. Mais bon, Overwatch 2, c'est un nouveau jeu, mais c'est pas une nouvelle licence. Mais ouais, je sais pas, moi je suis quand même frustré évidemment de tout ça, parce que j'ai envie, je suis méga fan d'Overwatch, j'y joue encore, rendez-vous compte, j'y joue régulièrement, c'est un bon passe-temps, et malgré le manque de contenu, j'y joue encore. Mais c'est plus comme à l'époque. Moi, je mentionne souvent le fait que entre Diablo et Diablo 2, il s'était passé quoi, 2 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et c'est plus comme ça. Entre Warcraft 3 et World of Warcraft, il y avait eu 1 an et demi. Ils avaient été développés en parallèle. Enfin, et c'est plus comme ça que ça se passe, quoi. Mais il n'empêche, moi j'aimerais bien jouer à Overwatch 2 ou à autre chose. Tu vois, c'est fou. 6 ans sans rien. 6 ans sans rien. Bon, pas rien, mais c'est incroyable. Et financièrement, c'est ça aussi qui me paraît intéressant à noter. Financièrement, la crainte qu'on a, et c'est ce que je dis à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, mais la crainte qu'on a avec Activision, c'est qu'ils poussent les développeurs d'en dessous à sortir les jeux avant qu'ils soient prêts, parce qu'il faut faire de l'argent rapide. Et quand Blizzard sort un truc, pendant bien 10 ans, tout le monde va acheter, même si la qualité va peut-être baisser s'ils sortent trop vite, mais ils ont suffisamment de capital à essorer, de capital sympathie à essorer pour que les gens achètent pendant bien longtemps. Et Activision pourrait faire de l'argent rapide là-dessus, mais visiblement, ils leur donnent de la latitude. Et on a parlé de tous les problèmes qu'il y avait avec la société et le fait qu'ils ferment les départements de support, de PR, marketing, communauté, tout ça, et qu'ils ramènent tout ça au niveau d'Activision et qu'ils transforment Blizzard en une collection studio. Donc, il y a les inquiétudes. Mais je ne peux pas... je ne peux pas critiquer... pour ce point précis, le studio, je ne peux pas m'amener à critiquer le studio... qui ne sort pas les jeux parce qu'ils sont pas prêts, alors qu'on se plaint systématiquement, et dans le monde du jeu vidéo, on s'en plaint beaucoup, que les jeux sortent pas prêts. Donc, je sais pas.
Blizzard, c'est dans la même catégorie que Rockstar, hein, de toute façon. Ouais. Donc, c'est des gens qui prennent le temps qu'il faut pour faire leur jeu, et moi, je les en félicite, et je les remercie, d'ailleurs. parce que ça nous rend plus facile à nous, petits développeurs indépendants, de nous expliquer aussi que oui, non, on va passer 6 mois de plus parce qu'on en a besoin, et voilà, c'est comme ça.
Complètement.
Bon, bah écoutez, voilà pour la BlizzCon Online. À vrai dire, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je pourrais rentrer dans les détails de toutes les rumeurs et les trucs intéressants qu'on a vus dans la vidéo d'Overwatch 2, mais je crois que ça ferait chier la plupart des auditeurs, donc on ne va pas rentrer là-dedans. Quand même, Diablo 2 Resurrected, on peut en dire un petit mot. Il y a plein de gens pour qui Diablo 2, c'est un jeu absolument monumental, un jeu fondateur de leur histoire de joueur. Et ils ont l'air d'avoir travaillé le remaster, remake, avec énormément de soin. Je parlais de la question des 25 images secondes, par exemple. Faire tourner un jeu qui est en 25 images secondes, en 60 images secondes, quand il y a des histoires de trame prêt pour les animations et que les coups aient le bon feeling... Eh ben, c'est vraiment pas facile, mais ils le refont de manière un petit peu comme StarCraft 2, comment il s'appelait, Remake, je sais plus comment il s'appelait, pardon, StarCraft 1 Remake, mais c'est vrai que ça, c'est un jeu qui a énormément d'importance pour une grosse partie des joueurs, et donc ces gens-là seront contents de le retrouver. Et il y aura des nouveaux joueurs qui vont pouvoir le retrouver aussi. À noter qu'il va arriver sur console, en plus du PC, évidemment. Donc, ça permettra vraiment à un public plus large de le trouver. Et à propos de Diablo, on n'a pas eu de nouvelles du tout de Diablo Immortal, ce qui m'a beaucoup surpris. Pas eu de nouvelles du tout d'autres jeux mobiles. On a eu un tweet il y a quelques jours de ça d'un développeur qui disait « On est en train de développer un jeu dans la licence Warcraft sur mobile, c'est super cool, venez travailler avec nous. » Mais bon, on savait qu'il développait différents jeux mobiles aussi, mais rien à la BlizzCon. Bon, clairement, c'était un petit peu décevant. Allez, on va en rester là.
On va finir là-dessus.
Ouais, Patrick, moi, je voudrais quand même les saluer de l'avoir fait parce que on est dans un moment difficile du monde. On est tous en train d'essayer de se creuser la tête. Et nous, à Game Bakers, de façon très, voilà, dans notre studio, on se pose aussi les mêmes questions. C'est comment on peut encore réussir à faire des événements pour notre communauté avec les joueurs et les joueuses qu'on a envie de rencontrer. Et qui ont du sens aujourd'hui dans un monde où on ne peut plus vraiment rien faire. Et eux, bah voilà, ils l'ont quand même fait en ligne. Et moi, je dis chapeau, c'est bien de continuer à le faire et de ne pas tout laisser tomber parce que c'est important, quoi. C'est important de se retrouver même en ligne.
C'est vrai.
C'est marrant parce que de mes contacts internes chez Blizzard, que j'ai encore, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé chez Blizzard pendant quelques années, il y a bien longtemps maintenant, mais ce qu'ils me disent, c'est qu'ils tenaient à le faire au niveau de la hiérarchie, justement pour garder ce lien avec la communauté et que pour eux, c'était important, comme il n'y avait pas eu de vrai BlizzCon en physique, d'avoir quelque chose pour garder ce lien avec leur communauté et que c'est important autant pour les développeurs que pour la communauté. Donc ça va un petit peu dans la ligne de ce que tu dis. Et donc c'est vrai que c'est compréhensible. Bon, donc voilà pour la BlizzCon Line. On va parler des jeux auxquels on est en train de jouer en ce moment. Et je vais avoir l'occasion de poser des questions sur Haven, notamment à Audrey. Mais avant ça, je voudrais vous parler de Patreon, patreon.com/rdvjeux. Vous savez ce que c'est le moyen de soutenir l'émission. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux, le lien est dans les notes de l'émission. Et vous pouvez choisir de donner un petit euro, deux petits euros par épisode. Et d'avoir non seulement le plaisir de soutenir l'émission, hein, ça c'est un plaisir qui n'a pas de prix, qui n'a pas de prix possible, mais en plus de ça, vous avez des bonus comme les timecodes dans les notes pour aller aux endroits qui vous intéressent. Vous avez aussi les émissions avec des bonus dans les émissions, les after-shows, les éditos, toutes ces choses-là. Et vous avez d'autres petits bonus que vous pouvez aller regarder dans les descriptions, c'est sur patreon.com/rdvjeux et c'est le moyen pour soutenir l'émission, donc je vous remercie tous très chaleureusement. Si vous appréciez l'émission, si vous passez un bon moment en notre compagnie, pensez-y, peut-être que ça pourrait être un truc que vous pouvez faire, de soutenir les créateurs de contenu de cette manière, d'où on n'a pas les méthodes intégrées aux médias, donc ça passe par Patreon. Mais allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment simple, ça prend 2 minutes, vous pouvez le faire depuis votre mobile, depuis votre ordinateur bien sûr, et j'apprécie évidemment énormément le fait que vous me permettiez de faire cette émission. Alors, parlons un petit peu des jeux auxquels on est en train de jouer en ce moment. Il y a Curse of the Dead Gods, je ne vais pas en parler très longtemps parce que j'en avais déjà parlé, mais il vient de sortir et c'est un petit studio lyonnais qui s'appelle Pastek Games qui a énormément travaillé dessus. C'est édité par Focus Home Interactive, donc c'est vraiment franco-français, cocorico. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube qui détaille un petit peu le jeu. Donc, si vous voulez voir de quoi il en retourne, le gameplay qui est hyper pointu, hyper bien ficelé, vous pouvez aller voir. C'est sur youtube.com/notepatrick. D'ailleurs, c'est marrant parce que les vidéos de review font hyper peu de vues. Je ne sais pas pourquoi, beaucoup moins que les autres, même si la chaîne est petite. Et je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi. Mais bon, moi, je pense que la vidéo, elle était pas mal. Donc, vous pouvez aller la regarder si ça vous intéresse. Moi, j'en étais très fier. Mais oui, le jeu est vraiment, vraiment sympa. Un roguelite qui emprunte de tout les grands qui sont venus avant lui et qui réussit à faire un système de combat hyper serré et vraiment dynamique et sympa. Curse of the Dead Gods, ça coûte 20€, c'est dispo sur toutes les plateformes. Moi, j'ai vraiment bien aimé.
Ouais, et puis, il est très joli. Très, très joli. Ouais. J'aime beaucoup le game design du jeu. Même si je ne suis pas roguelike à la base, je trouve que vraiment, il a un bel univers.
Ouais, c'est vrai. Il fait tout assez bien. Et je trouve que le gameplay, t'y as joué en Early Access ou t'y as joué
Non, pas du tout. Moi, j'ai regardé plutôt quelques personnes y jouer. Ouais. Bon, j'ai voulu regarder parce que c'est lyonnais. Moi, je suis lyonnaise, tu vois. Je soutiens la ville. Mais voilà, j'ai voulu un petit peu regarder quand même ce que ça donnait, mais je n'y ai pas encore joué.
D'accord. Alors justement, tu joues à quoi en ce moment? Attends, je sais. Comme tu me l'avais dit il y a quelques semaines de ça, évidemment, tu t'es précipité sur Mario 3D World.
Pas encore. Tu sais que j'ai reçu le mail, ils m'ont envoyé le mail pour que, ah oui, que je l'aie, et j'ai pas encore donné suite, j'étais sur d'autres choses. Alors non, à quoi j'ai joué? Vous en avez peut-être parlé dans les épisodes précédents, mais forcément, j'ai joué à Little Nightmares 2. Ouais. Que j'ai terminé, qui pour moi était une petite merveille, vraiment. Sincèrement, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de presque meilleur en fait que le premier. Très belle continuité, donc on s'est régalé. On a fait 3 streams dessus. Et là, en ce moment, bah, comme d'habitude, moi, tu sais, j'adore les jeux de survie, donc je suis sur l'extension
Valheim.
De
Green. Ah non, d'accord.
Même pas. Je ne suis pas encore allée dessus. Tout le monde me dit qu'il faut que j'aille dessus, mais pas encore. Là, je suis allée sur l'extension de Green Hell qui s'appelle Spirit of Amazonia. Donc Green Hell, c'est
attends,
un
attends,
jeu.
Attends, Green Hell, c'est quoi ça?
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors ça, c'est un jeu de survie hardcore qui se passe dans la jungle amazonienne. En gros, c'est un peu dans l'esprit, tu vois, entre guillemets, cannibale holocauste. Hein, donc, tu te retrouves avec des autochtones qui veulent ta peau et tu vas pouvoir survivre avec une mécanique de gameplay très intéressante parce qu'il sort un petit peu des sentiers battus. Tu vois, tu peux choper des parasites. Il y a vraiment beaucoup de difficultés quand tu commences le jeu. Et là, il y a une extension qui est sortie avec un nouveau pan d'histoire, une nouvelle partie de la carte. Donc, en ce moment, on est en train de faire ça, on coupe du bois et on fait des petits feux de camp, c'est génial.
Tu dis c'est hardcore, donc c'est vraiment les jeux de survie. Justement, je disais la semaine dernière que Valheim, la raison pour laquelle il semble avoir beaucoup de succès, c'est qu'il est beaucoup plus doux, c'est le survival gentil, il n'y a pas de PVP, t'es en équipe et là c'est le contraire, c'est quoi.
Moi, c'est un peu, voilà, c'est un peu le contraire. Si vous aimez le côté, pour ceux qui connaissent, il y a The Forest, hein, mais c'est encore différent de The Forest. C'est vraiment, tu es seul dans la forêt. Alors, tu peux y jouer en coop, hein, mais clairement, je conseille d'y jouer solo. C'est quand même plus intéressant. Et là, c'est survie, vraiment, c'est survie hardcore. C'est très dur. Tu peux te faire piquer par des araignées, par des scorpions. Il faut que tu te soignes. Tu dois trouver des plantes. Enfin, c'est vraiment hardcore, mais très très sympa comme jeu. C'est un petit studio indé qui l'a fait et qui l'a très bien réalisé. Donc j'aime bien mettre en avant ces petits jeux de survie qui sont hyper bien faits.
D'accord. Ça s'appelle Green Hell et tu peux c'est nous ça. Rappeler le nom de l'extension ?
L'extension s'appelle Spirit of Amazonia et elle est comprise directement dans le jeu.
D'accord, ok. Donc c'est un patch inclus. Très bien.
Exactement.
Ok, super. Est-ce que tu es en train de jouer à des trucs, Audrey, en ce moment, ou tu es trop occupée pour
oui.
ça ?
Non, c'est ça, c'est la vie des développeurs de jeux vidéo. En fait, c'est qu'on nous dit tout le temps qu'on joue tout le temps, ce qui n'est pas vrai, en fait. Parfois, on doit aussi sortir des jeux et on travaille très, très dur. Donc là, mon jeu vient de sortir, donc comme tout développeur, je rattrape mon retard. Je joue à tous les jeux qui sont sortis en 2019 et que je n'ai pas pu jouer. Et moi, j'aime bien jouer sur ma Switch aussi. Donc là, je jouais à Short Hike, que tu as peut-être déjà commenté. Tu sais, le jeu où tu joues ce petit oiseau qui fait une randonnée, en tout cas dans un parc, fait par un indépendant, quasiment tout seul encore. Ce genre de jeu qui m'impressionne toujours avec ses équipes ultra réduites. C'est très poétique, c'est très reposant. On se balade, on grimpe, on volette et on essaye de savoir ce qu'il y a au bout de ce chemin, au bout du parc.
Et c'est un jeu qui est...
Rien à voir avec Green Hell, quoi.
Ouais. c'est Green Heaven plutôt. Mais il y a plein de gens qui en ont parlé en 2019. Effectivement, il y a même des gens qui les mettaient dans leur liste de jeux de l'année. Ouais. C'est très court, en plus. C'est 2-3 heures, je crois, de jeu.
Oui, c'est très court, ouais.
Moi, je ne l'avais pas fait, mais... D'accord. Et c'est un des jeux qui est sur ma liste des trucs à faire un jour quand j'aurai du temps.
C'est ça.
Tu vois, en fait, maintenant que mon fils a 3 ans, je commence à avoir du temps. Et comme le deuxième arrive dans un mois, c'est je replonge, quoi. Donc, Ocean Trek, je le programme pour 2024-2025, à peu près quand Overwatch 2 sortira, tu vois.
Tu pourras le jouer avec ton plus grand-fils, là.
C'est ça.
Bonjour. On pourra le regarder tous les deux, c'est ça.
Tout à fait. donc A Short Hike, très bien. Moi, j'ai testé aussi Ghost Runner, qui a eu une démo qui est sortie sur toutes les plateformes il y a quelques jours, 2 ou 3 jours. Et Ghost Runner, c'est un jeu dont j'étais assez curieux. Et je me suis dit, bon, je vais pas le prendre parce que ça m'a l'air un petit peu difficile quand même pour moi qui n'ai pas énormément de temps et qui n'ai plus le temps de faire ces die and retry hyper compliqués. Mais c'est vraiment le fantasme du ninja cyberpunk. On est un type qui court, qui a un sabre et qui doit zapper entre tous les ennemis pour les découper en rondelles. Et c'est vraiment ça. Mais bon sang que c'est dur. Je ne vais pas en parler 2 heures parce que la démo est disponible et j'ai vraiment joué un tout petit peu, mais j'ai testé juste pour voir ce que ça donnait. Vous pouvez aller regarder vous-même aussi puisque, comme je le disais, il y a la démo. Mais c'est vraiment, tu cours partout, tu fais des dashs, tu peux parer les coups des ennemis, mais tu prends un coup, t'es mort. Tu dois recommencer au checkpoint et tu recommences vraiment en 2 secondes. C'est le die and retry très bien fait où tu as une demi-seconde pour recommencer ton truc. Donc, c'est le pur... Allez, je tente encore une fois. Je tente encore une fois et tu te retrouves à passer une heure dessus pour essayer de passer le niveau. C'est vraiment bien foutu.
J'ai vu mon... Moi, je n'y ai pas joué, mais j'ai vu mon chéri y jouer et beaucoup rager hein, dessus. Et c'est vrai que quand tu le regardes, tu sais, d'un point de vue extérieur, c'est hyper prenant et c'est ultra fast. Hein. C'est clair que c'est le die and retry, mais hyper rapide. Mmh. Et il était très joli à regarder. Mais personnellement, je ne serais pas allé dessus, ça allait trop m'énerver.
C'est vrai qu'il ne faut pas trop avoir tendance à jeter la manette, hein, parce que sinon, elle se retrouve par terre. Et d'ailleurs, à la manette, c'est hyper difficile de contrôler. C'est le genre de jeu où je me dis, il faut mieux la souris et le clavier quand même. Enfin, la souris pour être précis dans les mouvements.
La manette, je pense que c'est pour ça. Il était à la manette, justement, et je l'entendais pouffer de rage. Et par moment, je venais voir ce qui se passait.
Exactement.
C'est quand même une grande année pour les studios polonais il y a quelque chose avec le cyberpunk et la Pologne, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai, c'est pareil. Ghost Runner, énorme succès. Hein, et bon, évidemment aussi.
C'est vrai que.
Les Polonais aussi.
C'est marrant, il y a des tendances pour les jeux polonais, et je ne sais plus pourquoi je regardais un jeu. C'était un Ah non, j'étais en train de regarder une série de documentaires où il parlait de Tchernobyl, et. J'ai été frappé par l'influence de l'ensemble du bloc soviétique sur les jeux développés en Russie, en Ukraine et tous ces pays-là. Et c'est vrai qu'il y a c'est des références culturelles, j'imagine, mais ça m'a vraiment frappé en voyant cette visite de Tchernobyl aujourd'hui qui, forcément, te fait penser à Metro, à Stalker, à tous ces jeux-là.
C'est vrai.
Et il y a beaucoup de développeurs en Pologne. Attendez, je vais faire une transition de folie. On a aussi beaucoup de développeurs en France. Et l'un de ces développeurs de talent, c'est The Game Bakers. Mais je veux te parler de Haven, mais je veux aussi te demander, est-ce qu'on a l'impression qu'en France, il y a beaucoup de développeurs français parce qu'on est français et qu'on les voit? Ou est-ce que c'est vraiment comme peut-être l'industrie du cinéma, on a vraiment beaucoup d'activités dans ce domaine, et pas que avec Ubisoft, mais il y en a plein, j'ai l'impression, qui viennent de France. C'est vrai ou c'est une illusion d'optique?
Non, je ne crois pas que c'est une illusion d'optique. On a vraiment un territoire jeu vidéo en France, c'est très, très dynamique. C'est comme tu dis, c'est des gros acteurs comme Ubisoft, mais c'est aussi beaucoup de petits studios, et d'ailleurs de studios de moyenne taille, hein, comme Quantic Dream ou d'autres. Et du coup, c'est vrai qu'on a, nous, on entend particulièrement parler, mais à l'échelle mondiale, on reste un des grands territoires du jeu vidéo. Et on a aussi la chance d'avoir des créateurs et des développeurs extrêmement talentueux. Et après, on a tout l'écosystème derrière qui fait qu'on a une industrie qui fonctionne bien, tu sais, avec toutes les aides qu'on peut obtenir en France pour faire du jeu vidéo, du CNC notamment. On est un pays qui soutient beaucoup le jeu vidéo. Donc, l'un dans l'autre, effectivement, si tu nous compares en Europe, on a beaucoup de développeurs. On est aussi un grand pays en France. Mais...
Ouais. C'est vrai, bien sûr. Mais du coup, oui, ton explication, c'est au moins en partie, j'imagine que l'affiliation d'Ubisoft qui a tellement grossi et qui donne des développeurs qui ensuite veulent faire d'autres choses, ça joue, mais en partie, au moins, les aides contribuent beaucoup au développement de cette industrie chez nous, quoi. C'est bon à savoir.
Les aides sont importantes, mais c'est vrai que, comme tu dis, Ubisoft, c'est la meilleure école de jeux vidéo, et c'est vrai que... Il y en a beaucoup qui sont passés par Ubisoft. Ouais. Et après, tu as aussi tout un réseau d'écoles qui sont de top qualité, aussi d'écoles de jeux vidéo en France. On en a des très, très bonnes. Voilà, donc ça fait qu'on a vraiment un écosystème complet pour avoir des gens talentueux qui vont faire des jeux vidéo.
Bah, du coup, je reviens à Haven, qui est, comme je le disais, un jeu... Bon, je suis sûr que Audrey, t'es allée écouter les 175 épisodes qu'on a fait, donc tu sais absolument tout ce que je vais dire maintenant, mais, mais les auditeurs m'ont déjà entendu parler du jeu, et c'est un jeu qui m'a vraiment marqué, parce que je ne l'ai pas complètement fini, je suis à la dernière île, vraiment la toute dernière, il faut que j'aie le temps, avec le petit, ce n'est pas facile, mais... Quand il est sorti sur le Game Pass, moi, je l'ai vraiment... Il m'a frappé parce que c'est un jeu comme j'en ai jamais vu aucun jusqu'à maintenant. Et en plus, c'est hyper différent de Fury, qui est votre jeu précédent, qui était vraiment un boss rush hyper exigeant, qui était très, très... comment dire, orienté sur les mécaniques et les mécaniques hyper ciselées, comme j'en parlais pour Curse of the Dead Gods, par exemple, mais là, vous avez fait un grand écart avec un jeu qui est basé sur la relation entre Yu et Kay, et qui est cette relation constitue, c'est pas l'essentiel du jeu, mais c'est quand même une énorme partie de ce qui fait le plaisir du jeu, et le simple fait d'être les deux personnages ou de jouer à deux et de se balader dans l'environnement, c'est apaisant, et cette relation, j'ai jamais vu une relation amoureuse décrite de cette manière dans un jeu vidéo. À vrai dire, il y en a sûrement dans le cinéma, mais c'est assez rare d'avoir une relation, comment dire, sereine, aimante, et ouais, sereine, quoi. Généralement, il y a toujours des conflits, des trahisons, des machins, et qu'est-ce qui vous a pris de vous dire, après Fury, on va faire Haven, quoi?
Oui, bah c'est sûr que y a vraiment deux choses que je veux dire par rapport à ce que tu viens de dire, parce que déjà, il faut savoir que vous le savez mieux que personne, mais aujourd'hui, faire des jeux vidéo en étant indépendant, c'est extrêmement difficile. Moi, je crois jamais eu autant de jeux et autant de loisirs en général, si peu cher, que ce soit avec Netflix et tout le système d'abonnement et le Game Pass et tout ce que vous voulez. On a une compétition aujourd'hui pour l'intérêt des joueurs qui est énorme. Et on a aussi des gens qui sont extrêmement talentueux, qui arrivent beaucoup à la maturité de leur art. Et donc on a énormément de bons jeux. Ça, c'est vraiment riche, quoi. C'est vraiment un super moment pour être un joueur ou une joueuse. Et donc, du coup, faire la même chose encore et encore, ça ne nous intéresse pas déjà à Game Bakers. Mais aussi, ce n'est pas la recette pour le succès. C'est-à-dire que nous, on pense que pour que les gens soient surpris, il faut que les gens soient intéressés, interloqués quand ils entendent parler de notre jeu. Parce que si on leur dit c'est Fury 2, bon, bah c'est sûr que c'est super de faire Fury 2. Mais quelque part, on l'a déjà fait, en fait. Donc ça, c'était notre approche. Et notre deuxième approche, ça a été, mais c'est ça, c'était vraiment ce que tu l'as très bien résumé, c'est pourquoi personne ne parle de l'amour au quotidien, du bonheur d'être ensemble, dans une relation établie et heureuse. Et je sais pourquoi personne n'en parle, parce que maintenant je l'ai fait, et c'est vachement dur en fait de parler d'un truc pour eux. C'est beaucoup plus facile de mettre du drama.
Ouais.
Tu vois, c'est beaucoup plus facile d'être un grand romantique, tout le monde meurt à la fin, ou alors il se sépare, ou c'est beaucoup plus facile de parler de la première rencontre, et du dating, de tout ça. Mais non, raconter l'histoire d'un quotidien heureux, bah, accroche-toi, il n'y a pas grand monde qui arrive à le faire sans ennuyer les gens. Et donc c'était notre parti pris, c'était notre pari fou d'arriver à créer ce couple là, donc auquel tu t'attaches, je pense, quand même pas mal dans le jeu, et c'est le grand retour qu'on a eu des joueurs qui l'ont joué. Et donc du coup, on a construit tout le jeu autour de ça.
Ouais, c'est fou parce que c'est bon, tu le dis très bien, je vais pas juste le répéter, mais moi il y a un truc qui m'a marqué quand tu parles du quotidien et de la manière dont vous racontez cette relation. J'imagine à quel point ça a été difficile, et il y a énormément de choses qui passent de manière, comment dire, c'est pas explicite, c'est pas de l'exposition, c'est pas genre oh you, je t'aime tellement, c'est ça passe par des petites choses, des petites indications, et l'un des éléments, c'est les écrans de chargement avec les petites scénettes du quotidien dont chacune est tellement envoûtante, enfin je sais pas, tu vois ça et tu peux pas t'en... Peut-être que c'est parce que moi je suis dans une relation très aimante et très saine aussi, et quand on n'a pas ça, peut-être qu'on le comprend pas autant, mais à chaque fois que je voyais une de ces petites scènes, je pouvais pas m'empêcher de sourire, et ça me faisait du bien, quoi. Il y a peu de jeux qui font vraiment du bien.
C'est ça, c'est exactement comme ça qu'on l'a conçu, aussi en contre-pied total à Fury. C'est le jeu qu'on dans lequel on avait envie que les gens viennent se reposer un instant, tu vois, entre deux grosses sessions d'un jeu ultra difficile ou après une journée de travail longue et compliquée, d'aller se ressourcer un petit peu avec, quelque part, le bonheur universel d'être aimé et d'aimer quelqu'un. Je crois que tout le monde, comme tu dis, le connaît et s'y retrouve, en fait. Et c'est quelque chose de très précieux qu'on a, et ça tombait plutôt pas mal aussi de le lancer cette année, la fin 2020, 2021, ouais, pour la dernière console, à un moment où on est tous tellement isolés et tellement essorés et tellement, on manque tellement d'amour, je pense. Enfin, je ne suis pas en train de me plaindre.
Non, non, mais c'est sûr que...
Non, mais on comprend ce que tu veux dire.
Oui, je crois que c'est assez clair.
Ouais.
Écoute, y a une autre question que je voudrais poser aussi, c'est par rapport à cette difficulté ou cet état de fait, en fait, avec la quantité de jeux et la quantité de bons jeux qui est à un niveau qui, je pense, bah, toi, tu connais l'industrie depuis un moment, comme on le disait, mais on n'a pas eu autant de richesse dans le jeu vidéo, je crois, à aucun moment, même s'il y a eu des moments où il y avait d'excellents jeux. C'est le fait d'être arrivé sur le Game Pass au moment de la sortie. Je ne sais pas à quel point tu pourras parler de ta relation, enfin de la relation d'un studio avec le Game Pass. Je ne veux pas parler des détails, mais les joueurs se posent souvent la question de oui, mais si les gens se mettent à jouer avec les jeux Game Pass, ils ne vont plus acheter de jeux et on se demande, oui, évidemment, il y a une contrepartie, Microsoft, ils ne prennent pas les jeux pour rien du tout, on imagine qu'il y a une contrepartie financière, etc. En tant que développeur, la transformation que risque d'amener, moi je suis positif très souvent, enfin non, réaliste, je ne dois pas dire positif, et je pense que le Game Pass est une autre source de revenus et que ça amène d'autres bénéfices par ailleurs. Mais en tant que développeur, est-ce que tu as un regard que tu peux exprimer sur le Game Pass? J'imagine que tu n'es pas entièrement libre de dire tout ce que tu veux non plus, vu que Evan est dessus, mais est-ce qu'il y a des choses que peux dire ou pas?
Bien sûr, bien sûr. Et je crois que, effectivement, déjà pour clarifier, si ton audience ne sait pas comment ça fonctionne, que ce soit le Game Pass ou le PlayStation Plus qu'on avait eu avec Sony sur Fury, effectivement, Sony et Microsoft nous compensent du fait que notre jeu sera gratuit sur leur plateforme pendant un temps donné et ne nous empêchent pas non plus de le vendre sur les autres plateformes. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe et ça nous permet effectivement ce qu'on appelle de dérisquer nos productions, c'est-à-dire que ça nous fait un revenu assuré, parfois sur des consoles où on sait que ce n'est pas forcément la console où le jeu aurait été le plus naturellement joué parce que c'est peut-être des audiences un petit peu différentes. Donc ça nous dérisque. Mais à long terme, c'est évidemment le grand danger, la possible grande transformation de notre industrie et des contenus qu'on va produire. Tu l'as vu, l'impact qu'a eu Netflix sur le contenu et l'écriture même des séries télé, sur la façon dont elles sont conçues. Maintenant, on s'oriente vers un monde où on appelle les joueurs et les spectateurs à rester plus longtemps. C'est la rétention. La rétention, après, c'est parfois la monétisation aussi pour les free-to-play, mais en tout cas, pour le Game Pass et pour Netflix, c'est la rétention. Donc, est-ce que fondamentalement, ça va changer la façon dont les jeux sont faits? Je pense que oui. Et est-ce que ça va conduire à une forme d'uniformisation aussi des modèles, comme tu peux voir sur Netflix? Avec à chaque fois le cliffhanger de la fin, la deuxième série, le fait que tu ne peux pas t'empêcher d'appuyer pour savoir ce qui se passe après. tout ça, c'est quelque part, ça repose sur des mécaniques d'addiction qui ne sont pas forcément ce que chaque développeur a envie de mettre en œuvre dans son jeu. Donc nous, à Game Makers, on est très très loin de cette logique-là. On a toujours fait que des jeux premium, tu sais, où tu l'achètes et tu n'as rien à acheter dedans, sauf si tu as envie d'un petit extra ici et là, mais rien n'est nécessaire. Pour nous, c'est très difficile d'envisager un futur serein où on se dit il y aura encore la place pour des jeux que tu achètes et que tu vas jouer peut-être pas trop longtemps non plus parce qu'on ne veut pas manger tout le temps des joueurs. Est-ce qu'il y aura la place pour ça demain? La question est posée.
Et tu ne crois pas que justement le Game Pass permet, par le biais du financement notamment de Microsoft, comme ils ont besoin de contenu, et pas de contenu, enfin ils vont pas avoir Destiny 14 fois, tu vois, ça sert à rien d'avoir 14 fois un jeu service qui est ton jeu auquel t'es marié et auquel tu reviens tout le temps. Tu penses pas que ça peut justement offrir un moyen de financer des jeux un petit peu différents? Parce que beaucoup de gens disent ah ouais, sur Netflix tout se ressemble, tout est pareil. Franchement, moi j'ai pas cette impression, je trouve qu'il y a au contraire beaucoup de productions différentes. Alors oui, c'est souvent des séries, mais il y a beaucoup de productions assez différentes sur Netflix parce qu'ils ratissent tellement large qu'ils ont besoin de productions qui plaisent à plein de gens différents.
Oui, ce qui se ressemble sur Netflix, souvent je trouve, c'est les séries Netflix, on va dire plutôt.
Leurs séries à eux, ouais, qui sont...
Leur production au niveau des reportages, etc. Mais c'est vrai que je suis assez d'accord, il y a quand même pas mal de variétés au niveau du contenu.
Oui, il y a des variétés sur les thèmes et les sujets, mais sur les structures et la façon dont les gens sont retenus. Tu vois, c'est vraiment du design, en fait. C'est du game design dont on parle, et du design de séries télé. Donc ça, c'est un peu uniforme quand même. Et, c'est, et aussi, je, par exemple, sur un jeu comme Evan, l'apport du Game Pass, c'est même pas un tiers, c'est même pas un cinquième du budget. Donc,
c'est pas que
produire beaucoup t'es... de voilà, ouais. ça suffit
c'est,
pas.
C'est pas que t'es sur Game Pass, c'est bon, c'est le jackpot. Wouhou, on n'a plus besoin de rien d'autre.
Ouais.
Ouais, bien sûr.
Après, est-ce que quelqu'un le soulevait dans le chat? Je crois que c'est Tchernobins. Est-ce que ça vous permet pas quand même aussi d'avoir une certaine vitrine, une certaine toucher aussi d'autres personnes que vous n'auriez potentiellement pas touchées si vous n'aviez pas eu le Game Pass?
Oui, je pense que sur Fury, on le referait les yeux fermés. On a eu 2,7 millions de downloads gratuits sur PlayStation Plus.
Ouais.
Et ça nous a donné une visibilité de fou. Sur Even, sur le Game Pass, on a eu moins de visibilité, mais c'est pas non plus la même logique. Hein, le Game Pass est
bien sûr.
Pas tout à fait pareil. C'est pas la même base installée non plus de personnes derrière. Mais oui, ça nous donne effectivement de la visibilité. Ça c'est très chouette de pouvoir toucher des gens qui ne connaissaient pas le jeu. Puis c'est aussi vraiment important pour des indépendants comme nous d'avoir le support d'un Microsoft et d'un Sony qui nous mettent dans tous leurs shows, qui nous parlent de nous à leurs événements, etc. Donc ça c'est une grosse valeur ajoutée, c'est sûr.
Intéressant. Ouais. C'est bon. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. On pourrait parler des business models et de ce que ça va faire sur l'industrie pendant très longtemps. On aura sûrement l'occasion d'y revenir, mais l'uniformisation est évidemment une question qui se pose et on verra ce que ça donne dans les mois et les années à venir. Je voulais aussi mentionner, tiens, tant qu'on parle de jeux service qui vous poussent à revenir tout le temps et à remettre la main au portefeuille, il y a une démo de Outriders qui va arriver là dans quelques heures sur toutes les plateformes. Outriders, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gros... le gros jeu service qui va sortir, c'est Square Enix. Je suis en train de chercher, excusez-moi, j'hésite parce que.
C'est ça, moi j'ai pu y jouer en avant-première et là j'attends la démo avec impatience. J'y joue dimanche normalement.
Ouais. Alors c'est People Can Fly et Square Enix, et la démo arrive tout à l'heure en début de soirée, et c'est en gros le Destiny de Square Enix, on va dire ça. Maintenant que Avengers s'est planté, ils sortent et c'était bien alors dans ton test, Outriders?
C'était bien. Alors justement, moi j'ai pu le tester en gros avant-première il y a plusieurs mois. Effectivement, beaucoup de gens l'ont comparé à Destiny, mais c'est quand même beaucoup plus péchu. Moi, j'ai joué en coop avec deux autres personnes. C'est assez exigeant en termes de fight. Hein. On est vraiment sur quelque chose de très dynamique. Très, très dynamique, avec bien évidemment de l'exploration et tout. Mais j'ai bien aimé parce que justement, il faut une vraie organisation. Tu ne peux pas partir un peu n'importe comment avec tes coéquipiers. La première fois qu'on y a joué, tu vois, il nous a fallu plusieurs essais pour arriver à passer certains passages dans le jeu. Donc sincèrement, plutôt intéressant, assez exigeant, avec du challenge. Donc il me tarde de voir là ce que va donner cette nouvelle démo, parce que moi j'avais pu tester un bout, mais je pense pas que ce sera le même bout. Donc je pense que les gens vont être plutôt satisfaits, selon moi.
Bah, je vais tester ça, en tout cas, en grand fan de Destiny. C'est le prologue, c'est environ 3 heures de jeu par classe, et il y aura 3 ou 4 classes. Et le jeu sort en mars, je crois, mars ou avril. Il arrive dans pas trop trop longtemps. Donc,
vous pourrez
tester la démo. Et elle est en cross-play, cross-save, cross-tout. On a aussi une annonce, je ne l'ai même pas mentionnée, mais le State of Play de Sony, le prochain, a lieu ce soir. Donc, si vous écoutez l'épisode plus de 12 heures après sa sortie, eh ben, vous savez déjà tout ce qu'ils ont annoncé. On le traitera la semaine prochaine, bien sûr. Mais ils ont quand même donné quelques news chez Sony. Donc, on peut espérer que leur State of Play aura des informations sur Horizon Zero Dawn 2, enfin Horizon Forbidden West ou d'autres jeux de ce type. Moi, j'ose à peine prononcer le nom de God of War, mais bon, pour ne pas le jinxer. Mais Ragnarok, voilà, Ragnarok. Mais ils ont dit plusieurs choses intéressantes. D'une part, Gran Turismo 7 est retardé à 2022. Ça ne me change pas non plus complètement la vie. Ratchet & Clank, le premier, celui PS4, parce que c'est pas le premier, la version PS4 sera offerte en mars à tous les joueurs avec leur opération, je ne sais plus comment il s'appelle, Play at Home, un truc comme ça. Et surtout, deux grosses annonces. D'une part, Days Gone va sortir sur PC et Jim Ryan a annoncé que c'était pas le dernier jeu, on pouvait s'en douter un petit peu, mais c'est pas le dernier jeu qui est développé par Sony qui va arriver sur PC. Donc il y a vraiment une politique, d'après ce que j'en comprends, je pense que c'est assez clair, mais une politique de rentabilisation et de toucher un nouveau public avec leurs jeux, peut-être pour les amener sur leur plateforme ensuite, avec des jeux qui sont sortis depuis 3, 4 ans, qui vont plus amener personne sur leur plateforme spécifiquement. J'imagine, Audrey, que c'est une stratégie qui se tient. Une fois que ton jeu est rentabilisé, t'as plus besoin de ce jeu pour amener les joueurs sur ta plateforme. Bon, bah, tu le mets ailleurs, comme ça, t'en fais quelque chose, non ? Je pense que c'est... Enfin, t'es pas dans la tête de Jim Ryan, mais...
Il y a ça, puis aussi l'exclusivité, c'est quand même quelque chose qu'on a beaucoup moins vu avec la nouvelle génération de consoles. Avant, les consoles se vendaient quasiment que sur des exclus. Enfin, j'exagère, mais maintenant, ça c'est avec les PS5 et la nouvelle Xbox, ça s'est beaucoup calmé. Et c'est vrai que les consommateurs s'attendent vraiment plus à pouvoir jouer les jeux partout.
Ouais, moi je suis pas... Enfin, je dirais que sur la PS5, on les a pas encore vus, mais la raison d'acheter une PS5 plutôt qu'une Xbox... c'est justement les exclus. Sinon, justement, tu vas dans le Game Pass et t'as plus de jeux, c'est plus cool.
Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis toujours encore un peu dans ce schéma-là de regarder directement les exclus. Hein. Après, ah ouais. Personnellement, bah, du coup, de par mon travail, j'essaye toujours d'avoir toutes les consoles. Mais je suis quand même encore très friande de savoir quel exclu va être sur quelle console, etc.
Ah voilà, il n'y en a pas beaucoup sur PlayStation.
Mais ça va arriver, rends-toi compte. Il y a Ratchet & Clank, Kena Bridge of Spirits, dont j'espère qu'on va avoir des nouvelles ce soir, justement. On va avoir Horizon, God of War et Dieu sait quoi d'autre. Ça va arriver, mais l'autre chose hyper importante, c'est ce que disait Ryan sur le PlayStation VR. Il a carrément annoncé qu'ils étaient en train de développer une deuxième version du PlayStation VR, spécifiquement pour la PlayStation 5, qu'il serait évidemment moins encombrant que celui de la PS4, qui était quand même une tannée à ce niveau-là, et qu'ils allaient utiliser ce qu'ils avaient appris pour les manettes de la PlayStation, donc sans doute les gâchettes adaptatives et d'autres technologies, pour des nouveaux contrôleurs, pour le PlayStation VR 2. Donc, c'est un petit peu, j'exagère, mais à peine, la réalité virtuelle n'est pas morte. Loin de là, si Sony continue à investir dans la chose et va vraiment sortir une nouvelle version du casque, là où on pouvait vraiment se poser la question, les fans de VR se sont très frustrés à chaque fois que je dis que la VR n'a pas tenu ses promesses, mais hélas, c'est le cas jusqu'à maintenant. Je ne dis pas non plus qu'elle a disparu, parce que ce n'est pas vrai du tout, elle existe encore et elle continue, on va dire, à un niveau un petit peu en sous-marin, mais elle est toujours là, ce n'est pas une technologie qui a fait un blowout et un bust complet qui a disparu, c'est pas le cas. Mais le fait que Sony dise « Ouais, on est en train de préparer ça, on va arriver avec un PSVR 2, peut-être en 2022, peut-être en 2023 », c'est très important, je pense, pour la technologie de la réalité virtuelle et cette industrie du jeu vidéo.
Complètement, moi je te l'avais dit, je l'avais pas sur l'ancienne génération. Et là, le fait que ce soit annoncé au début de la console, etc., qu'en plus, effectivement, visiblement, il y aurait qu'un seul câble pour le brancher sur la console, beaucoup plus simple, et on arrive sur une nouvelle génération, personnellement, je suis hyper intéressée de la prendre. Parce que là, elle a quand même fait son chemin, ils ont eu le temps de bien bosser dessus. Effectivement, avant, elle n'avait peut-être pas trop tenu ses promesses. Mais là, on arrive sur une next-gen, tout ça, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant maintenant de voir ce qu'elle va donner.
Ouais. Je suis
et c'est sûr que Sony et Oculus, Facebook portent tout le marché de la VR avec leurs subventions, leur financement des différents projets des différents acteurs. Ils ont mis énormément d'argent. Ils sont toujours à la recherche, je pense, des jeux breakthrough qui va faire qu'il va absolument falloir avoir la VR à la maison. mais ils n'ont pas arrêté de dépenser d'argent. Il y a encore beaucoup, beaucoup d'argent qui passe chez les développeurs pour des titres VR. Ils sont en recherche.
Oui, d'accord, c'est bon à savoir. Donc, effectivement, ils continuent dans cette direction. Et du coup, bah, il y a eu quand même ces quelques annonces. Et donc, de quoi ils vont parler pour le State of Play. Encore une fois, quand l'épisode sera, vous écouterez cet épisode, vous saurez sans doute tout ce qui a été annoncé. Mais est-ce que l'une d'entre vous veut se risquer à des prédictions ou on évite de se ridiculiser tous ensemble?
Je suis très mauvaise en prédiction. Donc... Moi, je vais attendre patiemment qu'on nous dise. Moi, j'espère surtout en voir un petit peu plus, effectivement, sur les jeux qu'on attend, les grosses licences. Là, dans ce cadre-là, je ne me risque pas à grand-chose, quoi.
Oui.
Donc, j'attends effectivement un peu plus, peut-être des infos sur, en tout cas, des images sur God of War, sur toutes les grosses sorties que j'attends.
J'imagine, effectivement, Forbidden West. La grande question, c'est est-ce qu'on va en savoir plus sur God of War ? On espère, pour au moins quelques images à la fin en one more thing. Parce que s'ils sortent effectivement, comme ils l'avaient annoncé, Forbidden West et God of War Ragnarok cette année, on n'est pas si loin de la sortie de Forbidden West, j'imagine. Ça va arriver dans les 6 mois, quoi. Donc, il faut commencer à montrer un peu plus. Et puis, mais par contre, je suis sûr qu'ils vont parler de Kena Bridge of Spirits s'il sort bientôt. Il était censé sortir avant la fin de l'année, qui est un développeur tiers. Mais il y a aussi Returnal de Housemarque qui doit arriver, je crois, en avril. Donc là aussi, ils vont faire un petit coup de marketing dessus, j'imagine. Mais à part ça, quoi ? Moi, j'espère secrètement, comme à chaque fois qu'il y a une annonce de quoi que ce soit, un Street Fighter 6 ou un Tekken 8 ou ce genre de choses. Mais bon, je crains d'être déçu.
On verra bien. On verra ce soir.
Ce soir. Bon, allez, quelques news un petit peu plus rapides de l'industrie. BioWare a annulé complètement Anthem. Vous savez qu'Anthem était sorti il y a quoi ? 2 ans maintenant ? Et on va dire que ce n'était pas le succès attendu, il n'était clairement pas réussi. C'est sans doute l'un des pires accidents industriels de cette industrie. Il y en a d'autres, hein, mais celui-là, vu ses ambitions, c'était quelque chose de stratosphérique au niveau de l'ambition. Et vu le gadin qu'ils se sont pris, je crois que c'était le pire avant Cyberpunk. Et encore, Cyberpunk, il s'est quand même très bien vendu et il avait de grosses qualités. Et ils sont en train de le réparer. Là, Anthem, après 2 ans de travail dessus, même plus, ils ont décidé de jeter l'éponge et d'abandonner complètement. On parle dans la chatroom d'autres accidents. Fallout 76 Avengers, on n'est pas du tout au niveau d'Anthem, hein, les enfants. Il y a beaucoup de choses à sauver dans Avengers. Je ne sais pas s'ils y arriveront, mais il y a des choses à sauver. Et Fallout 76, pour tous les problèmes qu'il a, il continue à exister. Il a une communauté. C'est un jeu qui vit. Anthem.
C'est ça, exactement. C'est vrai qu'Anthem, il a été un petit peu mort-né, quoi. Moi, je l'avais pu le tester aussi en avant-première. J'avais rencontré les devs et tout, qui étaient hyper passionnés. Tu vois, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait toujours un petit pincement au cœur de me dire, ah, ils ont mis toute leur âme là-dedans et finalement, ça a pas pris, quoi. Ça a pas pris. Il y avait des manquements. Mais effectivement, c'est vrai qu'Anthem, il a pas du tout explosé comme il aurait dû exploser, comme il voulait qu'il explose, en tout cas, à sa sortie.
Ouais, il a explosé d'une manière complètement différente, effectivement.
Oui, c'est ça.
Mais moi aussi, ça me fait de la peine. Tu sais, le jeu était vraiment avait quelques éléments vraiment sympas et j'espérais qu'il puisse en faire quelque chose de cool, mais bon, bref. Anthem, j'allais dire petit ange parti trop tôt, mais c'est grand triple A parti, je ne sais pas si c'est trop tôt, mais parti.
parti tout court.
Ben, voilà, c'est ça, grand triple A parti. Mais oui, c'est surtout pour les développeurs que ça doit être un crève-cœur, parce qu'ils ont continué à bosser dessus pendant 2 ans, ils espéraient, et puis bon. PUBG...
Surtout qu'on a eu des success stories quand même de jeux qui ne marchaient pas, qui d'un seul coup... on a changé quelque chose et pouf, la formule a prise. Quoi. Surtout dans ce monde, dans le monde des games as a service comme un thème. Quoi. Donc c'est ça qu'ils devaient y croire, que ça s'est produit pour d'autres.
C'est sûr, oui. Et on évoque toujours Final Fantasy XIV, évidemment, mais il y en a d'autres. Que ce soit No Man's Sky ou d'autres, il y en a, c'est possible. Mais je pense que pour Anthem, c'était un retravail tellement complet qui était nécessaire. C'est pour ça que ça me fait peur pour Avengers. Je pense qu'à un moment, ils risquent de dire « Ok, c'est bon, c'est terminé. » Il y a tellement à faire pour l'amener à un niveau acceptable que... Bon. PUBG continue son petit bonhomme de chemin avec un nouveau jeu sur mobile qui s'appelle PUBG, c'est New State, qui est un jeu qui a l'air d'être une mise à jour presque, comment dire, graphique et générale de PUBG sur mobile, qui est beaucoup plus beau que PUBG mobile existant, et qui est bon. C'est juste pour dire que PUBG continue et continue sur mobile. Il est assez impressionnant au niveau des graphismes pour un jeu mobile, bien sûr. Je vais continuer avec quelques news et vous m'arrêtez quand vous voulez ajouter quelque chose. HP rachète HyperX, qui est un fabricant de périphériques. Qui est, d'ailleurs, il sponsorise plein de gens dans le domaine de bah, dans YouTube et dans Twitch. HyperX, c'est Kingston qui est un fabricant de RAM à la base, enfin de composants. Et HP les rachète. Ils ont déjà la marque Omen, qui est une marque gaming, mais ils se concentrent là encore plus sur les accessoires. Donc bon, si c'est intéressant de voir que un constructeur comme HP s'intéresse beaucoup au gaming, mais ils ont tous maintenant un petit peu leur marque gaming, hein, que ce soit HP ou évidemment depuis longtemps Dell a racheté Alienware. Je crois que Lenovo a une marque aussi, je ne sais plus. Ouais. Amazon continue à étendre les tests de Luna, leur service de streaming. Donc, pour le moment, c'est étendu à tous les États-Unis pour les gens qui ont un Fire TV, le dongle HDMI d'Amazon. Donc, on peut espérer que ça arrivera en Europe dans pas trop trop longtemps. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est un petit peu le Game Pass en streaming seulement. Je schématise beaucoup. Hein. Mais contrairement à Stadia, on n'achète pas les jeux à l'unité. On a un abonnement et c'est en streaming. Donc bon, on attend que ça arrive ailleurs. Je voulais faire aussi un petit topo sur les crossovers dans le monde du jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est l'effet Avengers que les gens pensent qu'ils peuvent implémenter dans le jeu vidéo aussi, mais Fortnite inclut maintenant des skins de Street Fighter. Ils sont en train d'amener Aliens, la licence Aliens dans le jeu. Fall Guys, qui arrive sur Xbox cet été d'ailleurs, va avoir des personnages tirés de Cuphead, donc Cuphead et Mugman. Et le plus surprenant, on a un crossover For Honor. Vous savez, For Honor, c'est le jeu service de conquête, je suis sûr que les gens connaissent, d'Ubisoft. Enfin, de conquête, de combat, de siège médiéval. Qui aura un caméo, enfin une sorte de crossover avec Shovel Knight, ce qui est quand même un petit peu, en même temps ça peut être cohérent, mais est-ce qu'il y a quelque chose à tirer, un enseignement à tirer de tous ces crossovers, ou c'est juste bah, c'est un mouvement marketing compréhensible de se dire bah, on va envoyer nos jeux dans d'autres jeux pour acquérir un petit peu plus de notoriété, ou je sais pas s'il y a une leçon à en tirer quoi.
Ça fait un moment que ça existe, ces crossovers, mais c'est vrai que là, on arrive. Je crois que j'en ai jamais vu autant, comme tu dis, Patrick. Ouais. Et c'est, je crois que pour moi, l'enseignement, c'est que la communauté, c'est le cœur de ce qui fait vivre les jeux maintenant. Et que du coup, tu fais du fan service. Tu fais du marketing, ouais. Bien sûr, tu fais du business, tu fais de l'argent, mais tu fais aussi beaucoup du fan service. Et du coup, ça passe par ces. Voilà, par ces crossovers et ces hommages rendus d'un jeu dans l'autre.
Mmh. Ouais, c'est vrai que... Ouais, vas-y, pardon, Trinity.
Non, je disais, je suis d'accord, j'ai rien à rajouter.
C'est vrai, j'avais pas pensé à cet angle qui est pourtant évident du fanservice. Ouais, c'est exactement ça, c'est du fanservice.
Tu déplaces en fait toute ta valeur sur ta communauté plutôt que sur... Tu sais, avant, l'important, c'était de vendre des jeux. Maintenant, c'est de garder des gens actifs sur tes marques et sur tes jeux. Et du coup... Ça donne encore plus d'importance à tous ces personnages. Mmh. Et pour la petite histoire, je veux quand même dire que j'avais des personnages de Street Fighter dans notre jeu, notre deuxième jeu, Combo Crew, hein, donc on avait sorti sur mobile à l'époque. On avait les quatre héros de Street Fighter dedans, mais oui. Et on avait aussi Fury dans No More Heroes, en t-shirt. On avait été invité par No More Heroes.
D'accord. Écoute, il va falloir que j'aille parfaire ma connaissance de l'historique de Game Makers, du coup.
Et sur tu le dis crossover,
ouais. Ouais, ça va.
En parlant de crossover, mais un crossover un peu différent, je voulais rajouter juste une petite news pour ceux qui n'ont pas vu. Levi's a fait une collaboration avec Pokémon. Ils viennent de sortir toute une collection de vêtements sur Pokémon. Voilà, pour ceux que ça intéresse au cas où. Et qui est super sympa. Voilà, je l'ai vu ce matin. Je me suis dit, il va falloir que j'en parle, hein, parce que vraiment... Yeah. Ils sont super jolis.
C'est marrant comme il y a une légitimisation de l'univers du jeu vidéo. Pour ceux qui... Vous êtes fort jeune, donc pour vous, les jeux vidéo, c'est normal. Mais pour ceux qui ont vécu dans les années 80, début 90, la démonisation du jeu vidéo, C'est vrai. Hein. Ça fait plaisir de voir ça. Pardon, Audrey, tu voulais ajouter quelque chose ?
Non, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai que tu as toutes les grosses marques qui maintenant courent après le jeu vidéo aussi pour se faire un petit coup de frais. Là. Et je pense notamment, là, je sais qu'en ce moment, des grosses marques de la mode, des marques comme Yves Saint Laurent et des grosses marques de la mode, de la beauté et du luxe, qui sont en train de courir après le jeu vidéo aussi pour essayer de se rapprocher d'un public plus jeune.
À quand un sac Louis Vuitton Tekken ? Ça serait la première fois que je m'intéresserais.
Tu le voudrais, tu serais le premier.
Oui, complètement. C'est ça. exactement. Tiens, puisqu'on parle un petit peu des années 80 et de nostalgie, Microïd va créer un jeu Goldorak. Qui est un phénomène en France, pas vraiment ailleurs en fait. Grandizer n'est pas hyper connu par rapport à ses concurrents, mais je suis très curieux. Autant les Schtroumpfs et les trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas trop. Autant Goldorak, je n'ai pas l'habitude de me vautrer dans la nostalgie, donc ça ne sera pas forcément pour moi, mais en même temps, je suis curieux parce qu'il y aurait un jeu sympa à faire pour un truc Goldorak. Mais je ne sais pas si Microïd a les dimensions pour faire un gros jeu, mais il pourrait faire un petit truc sympa.
C'est sûr que Goldorak, ça fait rêver et ça fait écho aussi, tu sais, je sais pas si tu avais vu cet article du Monde notamment qui parlait des développeurs français et qui disait qu'il y avait comme une nouvelle vague française du jeu vidéo qui était très très inspirée par le Club Dorothée, l'arcade, Néon, l'esthétique des années 80. Et parce que notamment dans les 5 dernières années, tu as dû voir pas mal de jeux, dont Fury, hein, qui en faisait partie, mais Last Penelope, Last Fight, et aussi de retour de licence, Wonder Boy, etc., des années 80 et autres. Et donc, du coup, il y a eu ce qu'ils appellent cette nouvelle vague des développeurs français, et tu t'aperçois qu'en fait, beaucoup de développeurs français ont été élevés au Club Dorothée, et c'est notamment le cas à The Game Bakers, mais dans pas mal de studios français. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un style français qui est infusé au Club Dorothée ? C'est une vraie question.
C'est dingue, hein, comme il y a vraiment eu une influence de ce truc qui, à l'époque, en plus, enfin, on pourrait parler là encore des heures du Club Dorothée et des particularités de ces mercredis après-midi. Mais ouais, ça a forcément une influence énorme. D'ailleurs, j'en parle de temps en temps quand on évoque le sujet, mais sans Club Dorothée, je pense qu'il n'y aurait pas eu d'explosion aussi, enfin à ce moment en tout cas, du manga et de l'animation japonaise en France de cette manière. Parce que nous tous qui sommes allés chercher tout ça, on était nourris au Club Dorothée complètement. Et c'était en regardant les versions heureusement censurées de Ken le Survivant et de tous ces trucs-là qui n'étaient vraiment pas faits pour les adolescents, les jeunes adolescents qu'on était, qu'on a commencé à s'y intéresser. Donc oui, Club Dorothée, je me demande, je pense qu'ils ne s'imaginaient pas que ça donnerait tout ça à l'époque. Mais...
Ah, tu te rends compte que quand tu es en charge des programmes audiovisuels des enfants, tu ne te rends pas compte que tu vas en fait former toute une génération de créateurs. Moi qui vis en Suède, ils n'ont pas eu Club Dorothée, ils avaient des programmes américains essentiellement. Et ben ils pensent pas du tout les choses comme nous et ils font pas du tout les mêmes jeux que nous. Donc c'est vraiment une grosse responsabilité de faire la programmation pour les enfants.
C'est clair. Allez, quelques news rapides en plus. Qu'est-ce que je vais... Ah, je vais quand même mentionner la nouvelle bande-annonce pour Nier Replicant version 1.22, je sais plus quel est le... Juste pour dire, je persiste et je signe. C'est rare que j'aime pas des choses. C'est rare que vraiment, du fond de mon cœur, il y ait des trucs qui me parlent pas du tout. Et Nier, vraiment, c'est un truc, quand je le vois, c'est le pire du jeu vidéo japonais prétentieux que je puisse imaginer. Je sais que les gens, vraiment, je me fais des ennemis à chaque fois que je le dis. Mais et c'est très personnel, hein, je suis très content qu'il y ait des gens qui aiment Nier et c'est vraiment moi, c'est moi. It's not you, it's me. Mais bon sang, je peux pas me retenir, quoi. Quand je vois Nier, et c'est un des jeux les plus adorés de l'histoire, et heureusement qu'on est tous différents, mais bref, si vous voulez faire le Nier, c'était le premier, hein, il y a le remake qui arrive très bientôt et il y a un trailer qui est disponible un petit peu partout. Voilà. Je sais pas pourquoi je le dis, mais ça fait un petit peu partie de la mythologie de l'émission maintenant. Patrick déteste Nier et vraiment j'essaye, hein. J'ai regardé, mais regardez-moi ce trailer comme c'est. Bon, allez. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à dire ? Ils seraient en train d'être produit un nouveau Silent Hill. On ne sait pas par qui, mais des rumeurs nous laissent penser que ça serait le cas. Et peut-être... Est-ce que vous avez entendu parler de Star Wars Republic Commando ? C'est un vieux jeu qui est en train d'être remaké, un jeu qui a une quinzaine d'années, et il est en train d'être remaké pour les générations, enfin les old-gen, enfin PlayStation 4 et Nintendo Switch, après un portage sur Xbox One. J'ai eu plein de gens qui étaient super contents de voir Republic Commando revenir, et moi je vous avoue que je sais même pas ce que c'est. Donc là encore, je fais preuve de mon
pareil. Moi je sais pas ce que c'est.
D'accord.
Non plus, mais je sais que Ubisoft fait pour le prochain Star Wars. Vous avez vu passer l'annonce il y a quelques semaines, j'imagine, qui est fait même par Ubisoft Massive, donc en Suède.
Ouais.
Le prochain Star Wars. Ouais.
Tout à fait. Alors celui-là, je m'y intéresserai. Republic Commando, je suis pas sûr. Allez, j'arrête d'être méchant. Vous savez, en fait, c'est tellement frappant quand je le dis. Il y a plein de gens qui disent des trucs méchants. C'est même pas méchant, c'est mon avis, mais il y a plein de gens qui disent des trucs méchants sur des jeux et ça choque personne. Alors que moi, quand je dis, oh, il y a un truc que j'aime pas, je suis tellement toujours, oh, c'est pas trop mon truc, c'est pas ça, j'aime pas trop, ça, moi, ça me parle pas. Là, vraiment, c'est bon, donc ça choque plus. Quoi d'autre ? Dernière chose, un dernier truc dont je voulais parler, j'ai oublié ce dont il s'agissait. Si, allez. On peut quand même dire, la dernière chose, c'est le trailer de Mortal Kombat, le nouveau film de Mortal Kombat. Alors, là encore, quand on parle des années 80-90, on se souvient du film de Mortal Kombat avec la chanson. Le trailer est hyper, comment dire, ça a l'air d'être fidèle à ce qu'on espérerait d'un petit série B bonne qualité. Pour Mortal Kombat, ça a l'air d'être pile ce qu'il faut. Et il y a les fatalités, il y a bien de la violence dégueulasse. Et moi, j'ai très, très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez vu le trailer.
Absolument pas. Moi, je n'ai pas vu.
C'est pas ma tasse de thé.
Bon, bah écoutez, vous retournerez jouer à Star Wars Republic Commando et Nier pendant que moi je regarderai Jax et Sub-Zero se mettre dessus.
On t'a pas été en dette sur tes deux dernières news.
C'est pas grave. Je suis sûr que les auditeurs me comprennent et qu'ils ont dans la tête la chanson de Mortal Kombat. Non, ok. Allez. Dernière chose, Henry Cavill a publié sur Instagram une image qui indiquerait, je vais vous passer les détails, mais qui indiquerait qu'il pourrait potentiellement jouer le Commander Shepard dans un film ou une production cinématographique ou série, on ne sait pas très bien, je ne crois pas qu'on ait les détails de ça, mais il pourrait être Shepard après avoir été Gérald de Rive.
Je ne sais pas si je pense
tout de suite à Henry Cavill pour Shepard.
À voir.
Peut-être qu'il réussira. Il est tellement baraque, Cavill. C'est genre, Shepard, moi, je le vois comme... Enfin, je ne le vois pas comme un mec aussi buff, quoi, aussi musclé. Je ne sais pas. Mais peut-être. Ça...
Après, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais pour faire ce rôle-là, il a quand même été aidé par certaines petites choses. Donc, je pense qu'il peut très rapidement perdre ce qu'il a pris aussi. Hein.
Ouais, tu veux dire que pour jouer The Witcher, ça repart aussi vite que ça vient. Oui. D'accord.
Alors oui, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon conjoint fait beaucoup de musculation. Il m'a dit c'est pas possible de prendre autant en si peu de temps, en fait. Bon, faut pas rêver.
Alors peut-être qu'il y a de l'espoir.
Ne reste que
les problèmes de jeu d'acteur. Là, par contre, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose, mais écoutez, il s'en est tiré avec The Witcher moyennement. Peut-être que ça donnera quelque chose pour Shepard.
C'était en dents de scie, ouais, The Witcher, ouais. Mais c'était quand même regardable.
Moi, j'ai bien aimé la série. C'est juste que lui, ouais. Je trouve, c'est pas un acteur exceptionnel, tu vois. Mais il adore le jeu vidéo et c'est une star de Hollywood, donc peut-être qu'on pense à lui quand on pense à un truc de jeu vidéo, quoi. C'est possible.
On verra en tout cas.
On verra. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir participé à cet épisode et d'avoir supporté mes vilipenderies de divers jeux. Avant de se quitter, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me dire où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent vous retrouver ? J'ai pas mentionné, on parlait de Mass Effect, bien sûr. J'ai juste dit Shepard, oui. Les gens auront compris, mais c'était Mass Effect, évidemment. Où on peut vous retrouver, où les auditeurs peuvent vous retrouver après la fin de l'émission, si ils ou elles en veulent plus. Trinity, où est-ce que tu es sur Internet ?
Et ben moi, comme d'habitude, je suis sur Twitch à Trinity, tout simplement, T-R-I-N-I-T-Y. Voilà, en live 6 jours par semaine.
Parfait, merci beaucoup. Et merci d'avoir fait l'effort de participer à l'émission malgré ton opération qui était quand même tombée pile au mauvais moment.
Et je peux dire un truc très badass, c'est-à-dire que je peux dire que je me suis fait enlever un organe. Et quand même, je pense que tout le monde ne peut pas dire ça. Mais oui, c'était peut-être un petit peu plus calme. Hein, et j'en suis désolée si vous m'avez trouvé un petit peu plus calme. Mais il faut dire que je suis pleine d'anti-inflammatoires. Donc, autant vous dire que ça m'a calmée. Hein.
Oui. Écoute, j'apprécie d'autant plus ta présence. Et je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement badass. Et rien n'arrête Trinity quand il s'agit de participer au rendez-vous.
Même pas quand on m'enlève un organe. C'est je ça. Suis là. Je tiens le rendez-vous.
Après, on s'étonne qu'elle joue à Green Hell et Little Nightmares et ce genre de trucs, mais c'est les répétitions, ça, pour elle. Merci beaucoup. Audrey, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi ?
Mais moi, le mieux, c'est de me retrouver dans les jeux de The Game Bakers, parce que je ne suis pas très, très présente sur les réseaux sociaux. Donc, voilà, thegamebakers.com, vous verrez tous nos jeux.
Super, et je vous encourage encore une fois à aller jeter un coup d'œil du côté de Haven. Bon, on en a suffisamment parlé, donc vous savez de quoi il s'agit. Mais je rappelle qu'il est sur le Game Pass, donc si vous avez un abonnement et une console Microsoft, eh ben vous y avez déjà accès. Donc allez regarder de quoi il s'agit, je pense que vous ne le regretterez pas. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. N'oubliez pas qu'il y a les vidéos sur YouTube, youtube.com/NotPatrick, bien sûr, c'est NotPatrick partout. Et d'ailleurs, j'ai fait un résumé de la BlizzCon dont on parlait tout à l'heure, un résumé d'une dizaine de minutes avec des analyses, des annonces. Donc, vous pouvez aller voir ça. Et une review de Curse of the Dead Gods également. Donc, voilà, c'est sur la chaîne YouTube, Twitch, bien sûr, NotPatrick aussi, pour les enregistrements en live. Et enfin, vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdvjeux. Vous le savez, le lien est dans les notes de l'émission et c'est non seulement un moyen d'obtenir des bonus super cool pour les épisodes, mais en plus, le moyen de soutenir l'émission et de vous dire que, bah oui, cette émission, elle est faite grâce à vous aussi. C'est grâce à vous que l'émission peut exister et je pense que c'est une motivation bien intéressante pour devenir patriote et rejoindre la communauté, évidemment, notamment sur Discord. Je vous fais de grosses bises à tous. Merci encore une fois à toutes les deux d'avoir participé et on se retrouve dans une semaine pour un prochain épisode. Ciao, ciao !